You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et si vous êtes en train d'écouter cette émission sur les agrégateurs de podcasts, vous ne voyez peut-être pas que sur YouTube, eh bien maintenant on est filmé. Vous avez peut-être raté cette information. Alors je dis pas ça pour moi, hein, mais je dis ça pour le magnifique Rafik Djoumi qui est ici présent avec moi.
Oui, je te fais de l'ombre, hein, désolé Steph.
Je sais, comme d'habitude, tu sais, tu es le meilleur d'entre nous. Merci Rafik d'être là pour parler d'un de tes films favoris, dis-le.
Déjà pour parler d'un bon film, ce voilà. Qui est pas si courant quand même dans les mini stéroïdes.
Tu dis ça pour Congo?
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une exception. Il y a eu Congo. Non, là pour parler d'un vrai bon film qui est La Tour Infernale, qui est un film qui, pour ma part, en tant que vieux roublard, a bercé mon enfance parce que c'était une multi-rediffusion télévisuelle. Donc c'est un film que j'imagine toi et moi on connaît plutôt bien.
Oui, bah, je dirais pas par cœur, mais ça faisait un moment que je l'avais pas revu, je l'ai revu pour l'émission, mais oui, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant. Hein.
Et surtout un film qui est, par pas mal d'aspects, à l'origine de beaucoup d'autres trucs qu'on aime, en fait. Ouais. Parce que, son impact, en fait, sur l'histoire du cinéma d'action a été assez manifeste.
Pour commencer.
Ouais.
C'est un film catastrophe.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que c'est un genre, en fait, du cinéma d'action, mais aussi du cinéma d'aventure, donc c'est un peu plus large en fait que le cinéma d'action en proprement parler, en tout cas le cinéma d'action à la stéroïde, quoi. Mais c'est important effectivement d'en parler aussi parce que bon, c'est que c'est un genre qui utilise des tropes effectivement qui se retrouvent, comme tu l'as dit, dans le cinéma d'action qu'on aime, quoi. Mmh. Et surtout à cette époque-là, dans les années 70, c'était déjà un genre extrêmement en vogue et qui était en fait comment dire, dans lesquels les gros budgets en fait partaient vraiment en fait pour faire des films vraiment spectaculaires, quoi.
En fait oui, il faut on a beaucoup écrit, glosé sur le nouvel Hollywood. Encore aujourd'hui, voilà, la critique, une partie de la critique considère que c'est presque le sommet de l'histoire hollywoodienne, en oubliant juste un fait, hein, c'est que le début des années 70, c'est le niveau de fréquentation le plus bas de l'histoire du cinéma américain. Donc oui, d'accord, Al Ashby, Robert Altman et Bogdanovich, c'est trop super, mais en même temps, le public, il avait littéralement disparu. Et ce qui a permis aux majors, à l'époque, qui avaient été rachetés par des groupes industriels qui savaient pas du tout produire de films, hein, ce qui leur a permis de se maintenir à flot, en fait, ça a été des succès comme celui-ci. Ça, en fait, vraiment, celui qui a démarré le truc, c'est Airport en 70. Mais très vite, en fait, Irvin Allen a vu la manne, en fait, financière qui se profilait là. Et lui, il a enchaîné, il a surenchéri avec l'aventure du Poséidon, qui a été un énorme succès. Et du coup, là, c'était parti. Tout Hollywood s'est converti à la sauce catastrophe.
Attends, parce qu'on est des boomers, hein.
Ouais.
Tu vois, enfin, on le reproche suffisamment pour qu'on le précise, quoi. Mais en fait, donc, Airport. Film catastrophe dans un aéroport, ça c'est assez facile à situer.
Avec un avion en péril, on va dire.
Voilà, c'est ça. On vous laisse deviner quel film d'action a récupéré cette donne-là.
Cette idée.
L'aventure du Poséidon, pareil. En fait, donc là, c'est pour le coup, ça se passe dans un bateau de croisière.
Un naufrage, voilà. Avec un bateau qui se retourne et du coup, les survivants qui doivent trouver un moyen de sortir de cet énorme paquebot retourné, donc du coup avec le décor à l'envers, quoi.
Voilà, et on sait très bien que James Cameron a totalement pompé ce film pour Titanic, voilà.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas un film historique, Titanic, voilà, c'est tout. Et donc La Tour Infernale, quand on arrive, c'est le film qui nous intéresse. Mm. Là, pour le coup, c'est un super building en feu, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc pareil, devinez quel film d'action a repris ce trope.
On va en reparler, mais du coup, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut vraiment résumer, et c'était pas si fréquent que ça à l'époque à Hollywood, les films avec des pitchs, en fait, très simples comme ça. Mm. Surtout, encore une fois, des films qui font, là, on leur parle, La Tour Infernale, ça fait 2h45 quand même, hein, et pourtant, tu résumes, c'est l'histoire d'un building qui prend feu, quoi.
Ouais. mais selon une formule qui a été bien établie et dont il est le meilleur représentant. En fait, déjà, je pense que quand on parle de La Tour Infernale, c'est pas vraiment un film de réalisateur, il faut le dire, hein, c'est clairement un film de producteur. On peut pas passer sous silence un mec comme Irvine Allen, qui a été un peu oublié par l'histoire, mais qui vraiment domine les 70s et qui avait déjà dominé la télé dans les années 60, parce que Irvine Allen, il était surtout connu des Américains comme étant le producteur de séries de type Perdu dans l'espace, Au cœur du temps, The Time Tunnel en l'occurrence, qui d'ailleurs était diffusé chez nous encore à la fin des années 70, début des années 80. Donc de séries SF, hein. Avec effets spéciaux, maquettes, cascades, effets pyrotechniques, des trucs finalement que le cinéma hollywoodien des années 60 n'exploitait pas vraiment. Donc c'est déjà, il y a un côté Barnum en fait chez Irvine Allen, le côté d'en mettre plein la gueule, plein la vue, etc. Qui va lui assurer une certaine place dans ce système de major qui au début des années 70 est vraiment en train d'essayer de se reconstruire. Ils font confiance en fait à ce gars-là. Et l'autre avantage aussi du genre du film catastrophe, c'est qu'il permet d'employer toutes ces grandes vedettes qu'Hollywood avait sous contrat dans les 60s et qui en fait n'ont plus tellement l'opportunité de briller avec toute cette jeunesse qui commence à prendre la place, quoi.
Oui, alors après ça c'est aussi un système que lui a vraiment mis en place, c'est-à-dire vraiment, parce que là on parle d'argent, en fait c'est des films qui ont coûté très cher, hein, des films comme La Tour Infernale, mais en fait l'argent il est aussi dans le casting, c'est-à-dire que en fait c'est quand même l'affiche, c'est Paul Newman et Steve McQueen.
Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway. Voilà, ils sont tous les trois au sommet de leur carrière à cette époque-là.
Voilà.
Basiquement, c'est je sais pas moi, l'équivalent aujourd'hui, ce serait quoi, Tom Cruise.
Dwayne Johnson, j'en sais rien. Voilà, enfin, mais c'est des affiches quoi. Et en même temps aussi, t'as Fred Astaire à côté.
Fred Astaire, Jennifer Jones, Richard Chamberlain,
Robert Wagner.
Et William Holden.
Et William Holden, qui demandait d'ailleurs à avoir la tête d'affiche à la base. En fait, il voulait vraiment être le top billing, comme on dit, c'est-à-dire d'être au-dessus des autres. En fait, le studio lui a fait mais. Ton dernier succès, c'était La Horde Sauvage, donc...
Tu vas te calmer.
Voilà, tu vas te calmer, quoi.
Non, c'est évident que c'est Paul Newman et Steve McQueen qui sont les deux moteurs du projet. Et il est bien de préciser aussi que sur un film comme La Tour Infernale, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on avait eu que Steve McQueen ou si on avait eu que Paul Newman, je pense pas que le film marcherait aussi bien, parce que leur dynamique est vraiment... Ils représentent tous les deux des choses finalement très différentes, quoi. Paul Newman à l'époque, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le beau gosse qui fait fondre les jeunes filles assez propre sur lui, là où Steve McQueen, il a surtout été porté au nu, notamment au lendemain de La Grande Évasion, par tout le public masculin, quoi, comme étant le blue collar auquel ils veulent absolument s'identifier. On sent que c'est un mec qui a les mains dans le cambouis.
Monsieur tout le monde, quoi.
Voilà. Et c'est pas un hasard si c'est lui qui joue le chef des pompiers, qui est là en donnant des leçons, en disant en gros à l'architecte beau gosse Paul Newman, non mais t'as fait n'importe quoi avec ta tour de merde.
Arrêtez de construire des buildings qui de toute façon vont prendre feu, quoi.
Voilà. Et donc c'est effectivement un gros projet qui est tourné assez rapidement, hein. Je crois que le film est tourné l'année où il sort. Enfin, je veux dire, à l'époque, il n'y a pas de post-prod à rallonge en termes d'effets spéciaux, même s'il y a des effets spéciaux dans le film, c'est des effets spéciaux essentiellement physiques.
Il y a beaucoup de travail de maquette, de feu.
Énorme travail de maquette. Et une écriture, en fait, qui est finalement assez simple, mais pas non plus simpliste. Alors, Sterling Siliphant, le scénariste, il avait déjà collaboré à l'aventure du Poséidon, mais c'est surtout un mec qui avait été remarqué avec l'énorme succès de In the Heat of the Night avec Sidney Poitier dans La Chaleur de la Nuit, voilà, qui d'ailleurs va lui valoir dans les années 70 l'insigne honneur de faire le Shaft en Afrique, là, Shaft contre les trafiquants d'hommes, justement.
Trafiquants d'hommes, non, d'armes.
Les trafiquants d'hommes, je crois,
ouais,
c'était.
Ouais,
D'ailleurs, donc Shaft in Africa, réalisé par John Guillermin, qui sera aussi le réalisateur de La Tour Infernale.
L'homme a tout faire à cette époque-là en plus. Hein, c'est-à-dire que vraiment, en fait,
de
Guillermin. Hein, c'est-à-dire que en gros, il est parti faire le King Kong de...
C'est après, ouais,
King Kong. Après La Tour Infernale, il est parti faire le King Kong de Dino de Laurentiis.
Guillermin, on va y revenir parce que justement, sa dynamique avec Irvine Allen est intéressante. En fait, Irvine Allen, c'est je veux dire ça comme ça pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas forcément gentil de dire c'est un gamin attardé, mais c'est aussi ce qui fait sa force. C'est-à-dire c'est un type qui vraiment kiffe les délires de maquettes, de on produit pas des séries comme au cœur du temps et Lost in Space si on n'a pas un côté un peu immature en fait, ouais. et il compense cette immaturité imaginaire par une présence hyper autoritaire. C'est un mec qui est connu pour des colères absolument démesurées, et surtout que les gens qui travaillent pour lui ont l'impression qu'il dirige tout, quoi. C'est genre tout ça c'est moi qui fais, tu vois. Donc sur ces projets, il fait aucun doute pour toutes les personnes présentes que tout le monde bosse pour Irvine, quoi. C'est le big boss, quoi. Mais en même temps, ce big boss, c'est si tu le laisses deux secondes avec une maquette, tu vas l'entendre faire, et c'est ce qui donne aux scènes d'action du film le côté ludique aussi. C'est que il y a dans l'imagination qui prédispose à ces films catastrophes, elle est extrêmement ludique. L'aventure du Poséidon, ce qui fonctionne dans le film, la brillante idée, c'est cette idée de d'évoluer dans un décor à l'envers, et ça c'est une pure idée de môme en fait, quoi. Et de la même façon, il y aura plein de scènes de La Tour Infernale qui sont des trucs qu'un gamin pourrait imaginer, comme par exemple de faire évacuer les gens avec une espèce de téléphérique improvisé pour le faire sortir de cette tour en feu, quoi.
À son niveau et à son époque, on va dire que c'était un Roland Emmerich pas cynique, quoi.
En tout cas, Roland Emmerich a vu les Irvine Allen, vu et revu dans tous les coins, et notamment pour ce qui est de la progressive mise sous tension du spectateur. Et c'est là où effectivement l'écriture de Stirling est intéressante, c'est que déjà moi je trouve que les personnages sont présentés de façon assez brillante en termes d'efficacité narrative. Je veux dire, le personnage de Newman, il est littéralement présenté dans un champ contre champ, quoi. C'est-à-dire, le film démarre sur un hélicoptère, on voit ce mec avec des belles lunettes Ray-Ban hyper classe, et qui regarde cette tour avec un énorme sourire, donc tu te dis, il a un rapport à cette tour-là, il la connaît bien, et dans le plan suivant, il fait légèrement la gueule, quoi. Il a un problème avec cette tour, et on t'a pas encore donné son nom, que tu sais déjà qu'il est à l'origine de cette construction.
Et même par rapport à son parcours à lui, en fait, il le précise parce qu'il vient de l'extérieur de la ville, en fait, il vient de la nature, en fait. C'est-à-dire, lui, il veut retourner à cet état-là, alors qu'il est l'architecte, en fait, du plus grand building qui est en train d'être inauguré, quoi.
De cette tour de fer, de verre, pardon. Tour de verre, d'ailleurs, parce que c'était le titre d'un des bouquins qui a servi de base. En fait, ils sont inspirés de deux livres, qui étaient The Tower d'un côté et The Glass Inferno de l'autre. Donc, ils ont simplement fait The Towering Inferno et c'était réglé. Mais je trouve que la présentation des personnages, elle est intéressante et efficace. Le personnage de Fred Astaire, il nous a présenté pareil, de façon hyper économe. C'est-à-dire, on comprend immédiatement du type, il arrive devant ce qui est finalement une tour de luxe, quoi. Et il est en train de négocier des centimes avec le taxi qu'il dépose. Donc, on comprend que ce mec, il a des problèmes de thunes, qu'il est là pour autre chose que juste parader, quoi. Qu'il a un plan, on va dire. Voilà, pareil pour William Holden. Enfin, le personnage de Faye Dunaway, qui nous est présenté au départ, on sait pas à qui Paul Newman est en train de s'adresser quand il rentre dans cet énorme bureau avant qu'on découvre qu'elle l'attend. Donc ça c'est voilà, il y a une forme de d'économie à l'écriture qui est intéressante. Et aussi ce besoin de faire en sorte qu'on s'identifie un minimum à ces personnages, parce que ben une fois que la catastrophe va être annoncée, ben ils vont dégager les uns après les autres, on va dire, ou en tout cas on a besoin que le spectateur se sente concerné par leur sort, et du coup il faut vraiment qu'ils soient plantés. Et la façon de les planter, moi, ils auraient pu les planter individuellement, mais en fait il va choisir de les planter par couple. En fait c'est les couples qui forment vraiment le film. Donc Paul Newman et Faye Dunaway qui sont en couple. On a Richard Chamberlain, et dont on comprend qu'il est dans un mariage un peu foireux, mais dont il a besoin pour survivre, on va dire.
Avec la fille
de l'entrepreneur
qui a financé le building.
Voilà. Quoi. Et donc Fred Astaire qui est venu pour arnaquer en fait une vieille riche quoi qui est jouée par Jennifer Jones qui est pas du tout dupe du fait qu'il est là pour l'arnaquer mais en même temps elle a quand même un crush pour lui
et ils vont tomber amoureux
voilà mais justement ils vont se construire leur vraie romance à travers cette catastrophe enfin voilà donc du coup dans le film enfin les femmes en tout cas jouent le rôle de révélateur des hommes c'est elles qui finalement révèlent leurs manquements leurs failles et les trucs avec lesquels ils vont devoir se construire en fait dans l'intrigue. Fred Astaire va montrer une partie héroïque de lui qu'il ignorait. Paul Newman qui est dans le refus d'affronter ses responsabilités va se mettre à les affronter. Donc voilà, s'il n'y avait pas ces couples installés dès le début, alors aujourd'hui c'est vrai que tu perds pas 20, 25, 30 minutes à présenter des personnages, mais en même temps ça c'est payant quoi.
40 minutes. Oui. 40 minutes de présentation, mais par contre sur un film qui dure 2h45 mmh. et surtout qui quelque part fonctionne derrière après avec une espèce de si tu ramènes ça on va dire aux années 70, c'est un film de 74, c'est un film qui arrive avant juste avant d'ailleurs et moi je pense qu'il est à la scission en fait de ce que Hollywood va la façon dont Hollywood va réussir à se réinventer après c'est-à-dire il arrive 6 mois avant les Dents de la Mer quoi c'est du non-stop action les 2 heures qui suivent parce que c'est vraiment en fait on est sous tension tout le temps pour savoir comment en fait chaque personne qui se trouve dans des étages différents vont pouvoir être évacuées
ou pas
pour sortir ou pas quoi voilà donc non là-dessus c'est vrai qu'il y a une certaine efficacité bon qui effectivement à remettre dans le contexte d'un film qui a presque 50 ans maintenant hein. Et voilà quoi ce qui est aussi je trouve intéressant alors moi je trouve que ce qui peut-être en fait pour mettre un petit bémol c'est que c'est un film de producteur et c'est là où on sent qu'il y a un peut-être pas un manque de vision
ouais.
mais un manque on va dire de contradiction justement avec ce que le producteur peut apporter quoi.
En fait, non, il y a quand même eu un bras de fer artistique, on va dire. Irwin Allen voulait réaliser le film. C'est la Fox et Warner, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est une coproduction Fox-Warner. Hein, c'était quand même un gros budget pour l'époque, qu'il a refusé parce que justement, il avait déjà la réputation de pas de quelqu'un d'ingérable, mais de quelqu'un qui est tellement préoccupé par l'idée de faire tout péter et d'en mettre plein la gueule qu'il oublierait peut-être de raconter une histoire par derrière. Il fallait quand même un directeur d'acteur. Donc la raison pour laquelle ils ont insisté pour que ce soit Guillermin, c'est aussi parce que quelques années auparavant, enfin presque 10 ans avant, en 66, Guillermin avait connu un énorme succès d'estime avec le film Le Crépuscule des Aigles, The Blue Max. Avec Georges Peppard et Ursula Andress et James Mason, dans lequel déjà il a eu l'exploit de faire passer Ursula Andress pour une actrice, au sens où tu croyais vraiment au personnage de baronesse qu'elle jouait. Voilà, c'est un film qui est aujourd'hui pour le coup un peu oublié, mais c'est un petit peu dommage.
L'aviateur.
Production sur la fin de la chevalerie chez les militaires, en mettant en scène en fait les aviateurs allemands de la Première Guerre mondiale qui sont encore en train de fonctionner selon des principes du 19e siècle, mais en fait le 20e siècle commence à se rappeler à eux quoi et ses réalités et annonce bien sûr ce qui va devenir l'Allemagne nazie des années plus tard. Donc un film assez intéressant, très spectaculaire, mais surtout spectaculaire dans sa façon de mettre en scène les confrontations humaines et du coup voilà, Guillermin il vient aussi pour ça, il vient aussi pour parce que on sait qu'on va devoir filmer beaucoup de stars qu'elles doivent être mises en valeur mais aussi que leurs personnages doivent éclore et ça franchement Irwin Allen il en aurait été incapable, il va le prouver des années plus tard en faisant un film qui s'appelle L'Inévitable Catastrophe qui réalisera entièrement lui où les scènes d'action sont à la Irwin Allen plein la gueule mais le film est d'un ridicule
c'est le titre anglais c'était The Swarm
avec l'invasion d'abeilles
qui est plutôt rigolo hein.
Involontairement, et c'est pas faute à un casting qui aussi était assez prestigieux mais donc voilà Guillermin il fait vraiment exister les personnages et il sait mettre en scène ses comédiens et ça se voit d'ailleurs dès le début du film hein. Je sais que là c'est dans peut-être dans les détails mais Il y a une façon d'utiliser l'espace et le décor qui est toujours très très ingénieuse, la façon avec laquelle William Holden accueille Paul Newman au sommet de la tour, par exemple, où on voit déjà que lui il est enfermé par cette architecture là où l'autre il vient du ciel dégagé. Lorsqu'ensuite il va le confronter dans son bureau, alors que le personnage de Wagner est venu leur proposer un deal et tout ça. Là je renvoie à des images que les gens verront dans le film. Faites attention à l'architecture. Vous remarquerez qu'il y a toujours une grande utilisation des lignes verticales dans ce décor en cinémascope pour justement pouvoir séparer les personnages en fait les uns des autres et jouer sur des rapports de force perpétuels. Quand il va voir Richard Chamberlain, ça se passe des deux côtés d'un bar de luxe où Chamberlain est en mode dominateur et en fait il sort du bar pour se confronter directement à lui et c'est le moment où Paul Newman fuit ses responsabilités et dégage du champ et à chaque fois il y a toujours dans le cadre la façon avec laquelle le personnage est plutôt en avant, plutôt en arrière, plutôt dans une embrasure de porte, plutôt du côté de la table qui désigne sa position hiérarchique, l'emprise qu'il a sur l'autre, etc.
Et c'est une des rares scènes qui n'est pas dans la tour ou dans les alentours de la tour.
En plus. Dans une très très belle maison à San Francisco qu'on retrouvera d'ailleurs dans le film de Fincher Zodiac, cet endroit-là. Et je crois même qu'il s'amusait à faire exactement le même mouvement de grue. Mais voilà, toujours est-il que Guillermin, il sait faire ça. Il y a aussi un travail très intelligent au niveau des couleurs, parce que c'est un film qui, par la force des choses, vu qu'il va y avoir 2 heures dans la fournaise, il va y avoir une dominante rouge-orange qui va être délirante. Du coup, c'est une couleur qui est presque interdite dans ces scènes d'introduction, où au contraire, il joue de couleurs beaucoup plus agréables et veloutées, quoi, soit des marrons profonds, soit du vert pour le salon de la réception, etc., pour qu'évidemment, dès que le feu arrive, il nous soit annoncé, si tu veux, le simple fait d'avoir une lumière rouge lorsque le signal se déclenche qu'il y a un problème au niveau électrique, pour nous c'est déjà la flamme qui est à l'écran, et ça il en joue beaucoup. Les deux personnages qui portent du rouge, du coup, sont les deux les personnages les plus coupables, qui sont William Holden et Chamberlain, en fait, qui portent tous les deux des vestes rouges alors que tout le monde est habillé différemment. Enfin voilà, il y a un vrai boulot de subtil, on va dire, de travail sur l'architecture, les costumes, le design, pour justement mettre en place les grandes tensions qui vont faire le film, quoi.
Moi, je suis d'accord sur ces points-là, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire, et te connaissant, en fait, je pense que c'est pas du tout un défaut pour toi. Moi, ça en est pas forcément un pour moi non plus, hein, mais je dirais qu'en fait, on est quand même à ce moment-là, en fait, c'est un moment charnière, en fait, parce qu'on est vraiment à l'orée, c'est du cinéma des années 60 quand même, en fait, c'est-à-dire un peu, évidemment, bon, on parle de Steven Spielberg, hein, quand on parle de Dents de la mer, donc il n'a pas l'aspect novateur, on va dire, d'un film comme ça, mais disons que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve, moi, je ne l'ai pas vu depuis un moment, et je me dis, il a un petit peu vieilli dans la façon de filmer les maquettes, dans la façon de, voilà, même si j'imagine bien que, en fait, enfin, en tout cas, moi, ça a fonctionné sur moi en tant qu'enfant, quoi, et j'imagine sur les spectateurs à l'époque aussi, ça fait partie de ces petits trucs là où je trouve que le film en prend un petit peu prend un petit coup dans l'aile, en fait. Voilà, après ça reste un spectacle cossu aussi, hein, fonctionnel. Il y a aussi un peu dans l'écriture, je trouve, en tout cas, peut-être à l'échelle des besoins de ce que le film raconte et de sa durée, parfois un manque de conflit. C'est-à-dire que en gros, t'as effectivement les conflits qui sont liés au personnage de Chamberlain et de William Holden. T'as parfois, en fait, si tu veux, l'antagonisme, mais qui est un antagonisme finalement assez light, hein, entre Paul Newman et
Steve McQueen.
Et Steve McQueen, quoi.
Qui était plus important en coulisses que sur le plateau, parce qu'en fait, Steve McQueen a un petit peu fait chier avec ça, hein, mais déjà, il voulait que son nom soit à gauche. Pour que ce soit dans le sens de lecture, c'est-à-dire que les gens lisent d'abord Steve McQueen avant de lire Paul Newman. Du coup, les agents de Paul Newman se sont débrouillés pour que le nom de Paul Newman soit un peu plus haut que celui de Steve McQueen. Et quand il a eu le script en main, au départ, il était pas sûr de faire le film, en fait, mais à l'époque, il était en plein dans sa romance avec Ally McGraw. Il venait de faire le film de Peckinpah, Guet-apens. Et c'est Ally McGraw, en fait, qui lui a dit que le rôle était vraiment chouette, et qui l'a convaincu de faire le film. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé le nombre de lignes de dialogue que son personnage avait par rapport à celui de Paul Newman. Il a découvert qu'il en avait 12 de moins. Et Sterling Siliphant, qui avait fini son scénario, qui était prêt à partir en vacances, pour se reposer de ce boulot, a été obligé de rester pour écrire les 12 lignes de dialogue supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il y a des passages où, en fait, son personnage n'arrête pas de déblatérer des trucs qui servent à rien, quoi.
Sauf que c'est étonnant, en fait, parce que mine de rien, en fait, le personnage de Paul Newman est là depuis le début et celui de Steve McQueen l'apparaît au bout d'une heure quasiment.
Ouais, une fois que le feu s'est déclaré, ouais, bien sûr. Ouais.
Et surtout qu'il est pris en compte. Mmh. Donc c'est assez étonnant finalement que. Mais ça, c'est des querelles habituelles, hein. Même récemment, en fait, on a eu vent de ça entre, je crois, Dwayne Johnson, The Rock, et Jason Statham sur le fait que, alors c'était pas sur les lignes de dialogue parce que bon, ça marche pas comme ça avec eux, hein, mais sur les attention, il faut pas qu'il y en ait un qui gagne par rapport à l'autre et tout. Mmh. Et pour le coup, dans ce genre de configuration là, c'est justement, ça génère en fait des situations où, narrativement parlant, on se retrouve avec des problématiques où ces deux personnages qui sont censés être antagonistes et qui le sont plus vraiment, mmh, en fait, mmh, parce qu'il faut qu'ils soient impérativement sur un pied d'égalité. Donc au bout d'un moment, bon là. On parle d'un film quand même comme La Tour Infernale, et contrairement à Hobbs & Shaw, on va pas comparer, mais je parlais vraiment en fait du système, du fonctionnement des stars hollywoodiennes, quoi.
Mais sinon, oui, c'est vrai que tu peux insister sur le fait qu'effectivement, c'est un film des années 70, mais c'est un film qui paye son tribut, enfin, qui est dans la continuité du Hollywood des années 60, ça c'est évident, ne serait-ce que par justement ce déploiement de stars. Maintenant, moi je trouve qu'en termes de filmage, pour le dire crûment, il y a une efficacité qui était quand même pas si courante dans le cinéma d'action précédent. Déjà parce que, et ça c'est Irvin Allen qui est vraiment insisté pour faire le maximum in caméra, donc c'est quand même l'essentiel des cascadeurs hollywoodiens a été débauché sur ce film là hein. Ils sont tous là, et il faut voir les cascades de malades qui sont faites, parce que t'as quand même des séquences, notamment la mort de Wagner, où t'as la caméra qui suit sur un étage entier un mec en flamme, genre il se l'est bouffé le type, quoi, si tu veux, il s'est vraiment cramé la gueule, quoi.
Mais ça c'est une scène très étrange, parce qu'en fait, enfin c'est pas une scène étrange du tout, mais enfin je veux dire, je comprends qu'elle existe, je comprends que ça fait, mais ça fait partie des en voyant le film comme ça fait partie des moments où tu dis, mais ça, un studio voudrait raccourcir le film, il couperait complètement ces personnages là en fait, c'est-à-dire vraiment il pourrait les couper parce qu'ils sont vraiment, en fait ils sont représentatif d'une situation qui a lieu dans l'immeuble, c'est plus en fait qu'une connexion avec le reste
en gros,
des personnages.
Voilà, c'est un des cadres de l'immeuble qui en fait couche avec sa secrétaire et sont pas censés le savoir, donc du coup ils se sont planqués dans une chambre, et évidemment eux ils sont en plein milieu de la fournaise et ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils étaient en train de faire l'amour, et du coup lui pense pouvoir survivre aux flammes et aller chercher les secours, et il va cramer en y allant. Quant à elle se fait carrément exploser la gueule par les flammes, et c'est d'ailleurs un des plans les plus traumatisants du film, c'est qu'elle saute par la fenêtre en flamme, et donc tu vois son corps descendre, enfin chuter en flamme, quoi.
Ouais, ouais. Mais le truc c'est que, alors déjà la scène en soi est spectaculaire.
D'ailleurs
la
comédienne voulait faire la cascade, elle a fait la tronche parce que quand elle a vu qu'il y avait une cascadeuse qui avait été engagée.
Mais la scène en soi, donc ce que je disais, elle est effectivement très spectaculaire, et personne ne, d'ailleurs en fait, qu'on soit clair, hein, le film est spectaculaire, ça fait aucun doute, hein, et même encore aujourd'hui, hein, 50 ans, quasiment 50 ans après, quoi. La scène est spectaculaire, et aussi elle a une portée tragique, en fait, qui est finalement pas si prononcée que ça à chaque fois dans le film, c'est-à-dire que y a ça, il y en a un petit peu plus tard vers la fin aussi.
En fait, elle est annoncée parce qu'ils avaient commandé une chanson pour le film. John Williams, qui n'était pas forcément le plus grand compositeur pour des tubes disco, donc c'est fendu quand même d'une chanson qui a été nominée à l'Oscar, qui est « We May Never Love Like This Again », on s'aimera plus jamais comme ça. Et en fait, lorsque cette chanson est entendue dans le film pendant la réception, c'est le moment où on passe ensuite à ce couple planqué dans sa pièce. Et effectivement, la chanson s'adresse à eux. Ils s'aimeront plus jamais comme ça, vu qu'ils vont être les premières victimes spectaculaires de cet incendie, quoi.
Alors tu l'as dit en préambule là, quand on a commencé à parler un peu d'Irvin Allen, tu as dit voilà, c'est une figure un peu oubliée aujourd'hui du Hollywood de cette époque là, quoi. Alors oui, parce que bon, il faut dire qu'il est mort finalement assez tôt, hein. Il est mort au début des années 90, je crois. Donc il a jamais vraiment eu le temps de revenir en fait après que la vague des films catastrophes soit passée. Et qui d'ailleurs lui-même contribue à enterrer quelque part, hein, en ces vertus à continuer à faire, en fait, utiliser finalement les formules, quoi. Par contre, moi, j'aurais tendance à penser que il y a un héritage. Alors, on a parlé des films, hein. Ouais. Évidemment, on va les citer comme ça, c'est clair.
Bah, mais l'héritier le plus déclaré, c'est évidemment c'est Joel Silver, hein, qui l'a dit en interview. Il me l'a dit. Que Irvin Allen, ça lui avait servi de modèle, quoi. Et effectivement, quand il fait Die Hard, il est clairement en train de faire son Towering Inferno à lui.
Et Et d'ailleurs, quand il voulait faire le troisième film, ça devait être l'aventure de Poséidon, plus lui finalement qui a produit Die Hard 3, quoi. Mais moi, il y a un autre nom. Je sais pas si tu seras d'accord. En tout cas, une certaine période, on va dire, du cinéma d'action, quoi, c'est Jerry Bruckheimer. Mmh. Et plus spécifiquement Jerry Bruckheimer que Don Simpson et Jerry Bruckheimer, dans l'idée que il y a aussi le fait de mettre de l'argent dans le casting, en fait, si tu veux vraiment, et d'aller chercher des vraies affiches, en fait.
Oui.
Quoi qu'on pense, en fait, moi j'adore évidemment Conner, mais pour des raisons tout à fait déviantes. Quoi.
Même Armageddon.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est des films, en fait, où il y a un casting de malade, en fait. Et mine de rien, aujourd'hui, c'est plus du tout ce qui est mis en avant dans les énormes productions. Quoi.
Ouais, le truc, moi, je vois plutôt Bruckheimer comme un producteur de bureau que de plateau. Je me trompe peut-être, mais Irvin Allen, c'est un mec qui met vraiment la main à la pâte. Je veux dire, toutes les scènes d'action de La Tour Infernale, c'est lui qui les dirige. En plus, qui les dirige dans un état quand même assez étrange, parce qu'on l'a pas précisé, mais Irvin Allen avait peur du feu. Il avait une vraie peur panique du feu, quoi. Mmh. Et c'est le mec qui décide de faire La Tour Infernale et qui, sur le plateau, est tout le temps en train de gueuler plus de flammes, plus de flammes, plus de flammes. C'est-à-dire qu'il est partagé entre sa terreur absolue des flammes et en même temps sa fascination qui fait qu'il sait qu'il faut que ce film en mette plein la gueule, quoi. Et d'ailleurs, il y a des moments vraiment, enfin, là, on parlait de la scène de la mort de Wagner, mais enfin, je veux dire, la présence des flammes autour de la comédienne durant cette scène-là, elle est quand même impressionnante. Enfin, elle est entourée de ça crame tout autour d'elle, quoi. Et donc, il faut imaginer que Irvin Allen est derrière la caméra avec eux, quoi. Donc, si tu veux, il se met quand même en condition. Il supervise une grande partie des effets spéciaux, parce que donc voilà, effectivement, gros, énorme travail de maquette, mais quand on dit maquette, on parle pas d'un truc de 12 cm, hein. Ils ont une maquette de, je sais plus, enfin, 60 feet, c'est ça, mais qui est littéralement de la taille d'un immeuble, quoi, cette maquette. Enfin, c'est celle qui est
pas utilisée, un immeuble, en tout cas c'est
si un immeuble de 4 étages, enfin, j'ai un truc il fallait des grues pour monter au sommet de cette maquette quand même, quoi. Et surtout pour les plans en contre-plongée, en fait, notamment lorsqu'ils allument les lumières, etc. Et en même temps, on remarquera que c'est intéressant parce que ils ont pas trop insisté sur, c'est-à-dire il y a très peu de plans où on voit la tour en entier dans le film. Il y a le plan d'ouverture quand Newman arrive en hélicoptère, mais après, pendant tout le film, on va nous faire découvrir les différents étages, et c'est nous, en tant que spectateurs, qui reconstituons l'architecture. Là aussi, je pense qu'il faut souligner quand même le boulot à la fois d'Irvin Allen et de Guy Hermine pour nous donner une topographie des lieux à travers cette présentation de personnages qui permet ensuite de quand même bien nous repérer plus. Mais oui, c'est pas rien, quoi. Alors, Die Hard va porter ce concept au sommet, mais déjà, il y avait une tentative de faire confiance à l'intelligence visio-spatiale du spectateur. Pour ne pas avoir besoin régulièrement d'avoir des plans larges sur la tour, quoi.
Ça, c'est une chose, mais par contre, je pense aussi que le film est beaucoup écrit dans ce sens-là. C'est-à-dire, encore une fois, comme on l'a dit, les personnages de Robert Wagner j'ai plus le nom de l'actrice, en fait, qui joue la sa secrétaire.
Ça me revient,
voilà. Ouais. Mais en tout cas, cette scène-là, c'est une scène, en fait, qui est écrite pour, justement, en fait. C'est-à-dire, vraiment, en fait, si tu suis le récit du film, on pourrait totalement la couper si on se souciait pas, en fait, de montrer la progression du feu et ce genre de choses. Donc, du coup, et d'ailleurs, c'est ce que je disais, un exécutif hollywoodien d'aujourd'hui, il la virerait sans avoir conscience de ça, en fait. Donc, je pense que dans le scénario, il y a vraiment, en fait, aussi cette progression, en fait, dans l'immeuble et dans la progression du feu et dans la progression des personnages par rapport au feu et leur positionnement, quoi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le film prend son temps et qu'il fonctionne, en fait, à la fin, sur le papier, quoi.
Sur le papier, tu peux le dire, parce que c'est un film qui est évidemment très très préparé. Ça aussi, c'était pas non plus quelque chose de forcément commun, pardon, dans le système hollywoodien de l'époque. C'est storyboardé au quart de seconde près, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'était un choc pour les comédiens, parce que c'était la première fois que, après avoir été castés, ils arrivaient dans le bureau du producteur et en fait, ils voyaient leur scène déjà dessinée, ils se voyaient eux-mêmes sur les murs, quasiment seconde après seconde, quoi, dans le film, à la fois storyboardé, c'est-à-dire de ce qu'on va voir à l'écran, mais aussi le storyboard est tellement taré qu'ils ont même fait des storyboards dans une espèce de 3D pour permettre de positionner les caméras à l'avance et savoir qu'est-ce que chaque caméra allait couvrir. Et c'est évident que quand tu fais l'aventure du Poséidon, l'élément avec lequel tu joues, c'est l'eau. L'eau, si tu touches pas, elle bouge pas, quoi. Alors que les flammes, une fois que t'as lancé les flammes, si tes caméras sont pas prêtes, t'es vraiment dans la merde. Du coup, ça nécessitait une préparation au quart de poil.
Même si on sait inversement que le fait de tourner sur l'eau, c'est compliqué aussi. Bah, bon, là, c'était en studio, c'était contrôlé, mais
pour l'aventure Poséidon, c'est de l'eau de studio. Mais le feu par essence, c'est l'élément le plus incontrôlable qui soit. Donc une fois que t'as lancé le feu, il faut vraiment que ça tourne. Il faut que les comédiens sachent où ils vont et surtout quel angle chaque caméra est en train de couvrir. Et là-dessus, j'ai plus l'assistant de Irving Allen. Il a été absolument crucial parce que le mec, il a dessiné mais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de croquis, justement pour savoir exactement ce qu'allait être couvert. Donc c'est un film hyper préparé et du coup, paradoxe pas inintéressant par rapport à ce que le film raconte, un film hyper sécurisé. Donc encore une fois, Irving Allen, il a peur du feu, il est en train de faire un film qui met en scène les pompiers. Du coup, il y a des pompiers, c'est des vrais pompiers qui sont présents sur le plateau, qui vont jouer le rôle des pompiers dans le film. Or Steve McQueen, évidemment.
Il n'y a pas que Steve McQueen, il y a un ou deux autres pompiers qui sont des comédiens.
Deux autres comédiens, voilà. Mais sinon, le reste des figurants, c'est des vrais pompiers. Et ils sont aussi là pour assurer la sécurité sur le plateau perpétuellement. Donc, en fait, bah, basiquement, il n'y a pas d'accident sur un film comme La Tour Infernale. Tout a été planifié bien à l'avance. Et d'une certaine façon, c'est ce qui permet d'avoir des résultats aussi spectaculaires à l'image, quoi.
Énorme succès.
Énorme carton. On n'a pas parlé d'un élément que je trouve intéressant, qui est celui de la musique, parce que justement, tu parlais de transition hollywoodienne. Irving Allen, il a fait débuter à la télévision John Williams sur ses séries télé. Et donc, c'est Williams qui va lui faire la musique de L'Aventure du Poséidon et celle de La Tour Infernale. Mais à l'époque, Williams, il s'est pas encore trouvé son identité de compositeur. C'est encore une sorte de sous-Henri Mancini, on va dire, plus ou moins. Et sur La Tour Infernale, en fait, il fait basiquement ce que Dimitri Tiomkin aurait fait dans les années 60. Hein. C'est assez pétaradant par moment, assez lounge music par d'autres. À part le générique d'ouverture qui a une fanfare assez plutôt spectaculaire et entraînante, le reste du score, c'est pas du tout le Williams qu'on connaît aujourd'hui et qui va justement se révéler avec Les Dents de la Mer l'année suivante. Quoi.
Là, celui qui a des motifs percutants, quoi. Mmh. C'est-à-dire que là, en fait, c'est je trouve que ça participe aussi effectivement de. Enfin, moi, j'avais complètement oublié que c'était lui qui avait fait la musique de ce film, quoi. Et effectivement, quand j'ai vérifié, je me suis dit, ah, tiens, c'est, je trouve que ça participe au classicisme, en fait, presque même du film. C'est-à-dire vraiment ce côté,
un peu dépassé, ouais.
Suranné, mais sans forcément que ce soit désagréable, déjà, d'une part, sans que ça enlève au spectaculaire du projet et du film, quoi. Qui se suit encore finalement assez bien aujourd'hui, quoi. Moi, je trouve que ça a un petit peu vieilli, mais sans que ce soit non plus.
Non, mais le c'est évident que le rythme, il est ce qu'il est. Encore une fois, tu peux pas faire de miracle avec les effets spéciaux physiques de l'époque, tu peux aller jusqu'à un certain point dans le spectaculaire, mais pas au-delà. Moi, je trouve qu'il y a quand même, ne serait-ce qu'au niveau des effets spéciaux, il y a des transparences qui tiennent encore bien la route. Alors, certes, ça se passe la nuit, donc c'est plus facile à faire. Mais enfin, il y a un nombre de plans assez incalculables où les personnages sont devant des fenêtres qui donnent sur la ville, et tout ça, c'est du blue screen, quoi. Et ça fonctionne. Moi, je trouve encore aujourd'hui, ça passe très bien. Le seul truc qui pêche, c'est la question de l'échelle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu filmes du feu sur une maquette, t'as pas cette impression de masse de la flamme. Et il y a des moments où on grille un peu l'effet. Mais voilà, moi je trouve que l'explosion de l'hélicoptère sur le toit, elle est quand même encore aujourd'hui assez assez prenante. Enfin voilà, il y a des choses qui tiennent. Et puis il y a des moments où tu sens que les comédiens sont en danger. Enfin, ils ont quand même foutu Fred Astaire devant un baquet d'eau monstrueux et franchement, il s'en sort bien, quoi.
Et, qui était pas tout jeune à l'époque, hein.
Clairement pas, ouais.
Qui était plus dans la fleur de l'âge, quoi.
Et Jennifer Jones, la pauvre, j'en parle même plus. C'est d'ailleurs un truc, quand tu vois le film en HD c'est une des premières victimes de la chirurgie esthétique hollywoodienne. Et t'as littéralement l'impression qu'elle est en plastique dans certains plans, quoi. Mais voilà, mais donc je trouve que c'est un beau témoignage de comment dire, pour moi, voilà, Hollywood est mort à la fin des années 60. Enfin, c'est le Hollywood de l'âge d'or avec des productions vraiment embarrassantes, hein, je sais pas moi, la Kermesse de l'Ouest ou ce genre de grosse merde, quoi. Je trouve que la Tour Infernale, c'est pour moi, c'est la belle mort de cet Hollywood là, en fait.
Mais justement, j'allais te poser une question par rapport au succès pour conclure peut-être, en fait, sur le film. Est-ce que le succès du film a généré, alors au-delà de des exemples qu'on a donné, c'est-à-dire le fait qu'il génère des Die Hard, des Die Hard 2, des films comme ça et tout, que ce cinéma de catastrophe soit revitalisé à travers le cinéma d'action pur et dur, est-ce que dans les années 70, au moment où en fait Les Dents de la Mer va arriver, au moment où Star Wars va arriver 2-3 ans après, est-ce que en fait il y a quand même le succès a quand même donné lieu à une série de films peut-être un peu moins reconnus aujourd'hui.
En fait, c'est vraiment l'aventure du Poséidon qui a lancé cette vague. On a eu, comment ça s'appelait, Two Minutes Warning avec Charlton Heston, qui est vraiment plutôt bien aussi, je trouve, à voir. Mais sinon, non, le genre, il s'est essoufflé dès le milieu des années 70. Effectivement, quand Irving Allen fait l'inévitable catastrophe, c'est fini, on est passé à autre chose. Et d'ailleurs, Irving Allen, en tant que showman, justement, en tant que Barnum hollywoodien, il a été un des premiers à comprendre le problème Star Wars. C'est-à-dire, quand il a vu le film, il est sorti de là en se disant, on est dans la merde, quoi. Enfin, parce que lui, il voyait que tout ce qu'il connaissait du cinéma, tout ce qu'il savait faire, n'était plus valide à partir d'un film comme celui-ci. Donc il a senti le vent tourner, quoi.
Bon, La Tour Infernale, c'est pas très difficile à trouver, hein. Je pense que si vous l'avez pas vu, c'est que vous l'avez fait exprès.
Voilà.
Non, mais en fait, je pense que ça se trouve assez facilement.
Ça se trouve assez facilement. Ça se trouve aussi. Alors, évitez à tout prix, si possible, la nouvelle version française, parce que donc il y a une version française d'époque, mais donc à ma connaissance, elle a été faite en mono. Du coup, ils ont refait une version française pour avoir un film en stéréo, et ça s'entend, et c'est vraiment de la merde. Donc, préférez la version originale sous-titrée. Si vous voulez voir
puis,
le film.
Il y a déjà certains films, en fait, il y a d'autres films encore plus célèbres, hein, comme Les Dents de la Mer, qui ont exactement le même souci avec une nouvelle VF qui est effectivement catastrophique, qui a été fait au milieu des années 2000. Et c'est problématique parce qu'effectivement, déjà, on retire le travail en fait de qualité qui avait été fait à l'époque, parce que mine de rien, cette VF
c'était bien doublé, voilà. Mais par contre, tu perdais au niveau de la précision des effets sonores, et c'est quand même important parce qu'il y a un gros boulot de sound design sur la Tour Infernale.
C'était les mix en fait qui étaient mal, enfin qui étaient aplatis en fait, surtout en général à cause des VF.
Voilà,
quoi.
Je le dis, je le précise pas à chaque fois, mais là vraiment préféré la VO. Quoi.
C'est vrai. Donc bon, voilà, pas très difficile à trouver. Et mine de rien, en fait, c'est quand même un prototype aussi.
Du film catastrophe, et du coup effectivement vous y retrouverez l'avant-goût de beaucoup de films que vous aimez, des classiques comme Pluie d'enfer, à quelques petites merdes comme Die Hard.
Voilà, c'est ça, exactement. Merci Rafik.
Merci Stéphane.
Bah, puisque c'est comme ça, tu vas regarder, moi je me tourne vers la caméra, mais je regarde les auditeurs et je leur fais, écoutez, c'est Rafik qui va vous faire la sortie. Voilà, parce qu'en fait, puisque tu aimes bien les...
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné envie de voir ou de revoir le film. Et si on peut faire ce genre d'émission, c'est grâce à vous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller contribuer à l'existence même de ces émissions-là sur la plateforme Tipeee, tip3e.com, ou bien sur Patreon, mot-clé Capture Mag. Donc voilà, vous pouvez choisir un seul versement, un versement mensuel, ce que, en gros, selon vos moyens, according to your needs, pardon. Et sinon, si vous avez vraiment pas les moyens de nous soutenir, bah soutenez-nous de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire partager, liker les applis de podcast, mettez des étoiles, mettez des pouces dans tous les coins, tout ça nous aide beaucoup. Envoyez-nous des petits mots doux, on adore ça, on adore vous lire. Faites-nous part de vos suggestions, et on vous remercie encore pour le soutien dont vous faites preuve.
Et alors, il a oublié de remercier Alain Mercier et Antoine
m'en fous d'Alain, qui crève dans des flammes qui sautent par la fenêtre.
Donc ouais, il a oublié de remercier Alain Mercier et Antoine à la technique. Et puis en fait, on vous dit à la prochaine avec.
C'est vrai qu'on a Antoine film, aujourd'hui. Hein. On l'a pas souvent, mais il nous a fait la surprise d'être là aujourd'hui. Salut Antoine. On ne voit pas la caméra en fait.
Mais faut sortir de scène là. C'est bon. Allez, à la prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.